notre connaissance de l'être étant analogique, c'est-à-dire on ne saisit pas l'être comme une donnée univoque, on saisit l'être dans sa diversité et dans son unité. Mais la diversité est première pour nous. Exactement, nous commençons toujours par connaître dans la diversité des cinq sens. Il ne faut pas l'oublier. Et quand vous êtes en face d'une opinion, vous devez essayer de voir cette opinion relève-t-elle de la vision, relève-t-elle de l'ouïe, relève-t-elle. Et ça, ce serait très intéressant à faire. Ça n'est pas fait. Parce qu'on ne discute pas les opinions, on les suit, politiquement. C'est la grosse bêtise dans laquelle nous sommes. Les gens suivent les opinions sans critiquer, alors qu'une opinion demande d'être critiquée. Sur quoi elle repose? Or, l'être est connu analogiquement, c'est-à-dire dans la diversité. Alors vous ne pouvez pas tout de suite conclure l'être est premier et l'un est sa propriété. Puisque vous connaissez l'être à partir de la diversité. Alors vous diriez plutôt que la diversité est propriété de l'être. Et vous existez l'unité de l'être par les principes. Les principes, on les saisit analogiquement. Et vous ne pouvez pas conclure de votre notion d'être que l'être est nécessairement un comme propriété. La propriété, vous la saisissez univoquement à partir du genre et de la différence spécifique. Mais quand il s'agit d'une notion analogique, vous ne pouvez pas. Donc vous êtes obligé de revenir à l'expérience. Vous êtes obligé de revenir à l'expérience et puis de tâter le pouls des philosophes. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'un et le multiple? Alors vous voyez que cette notion de l'un et du multiple était extrêmement débattue. Vous avez Platon et Aristote. Et ils ne sont pas d'accord sur l'un. Platon met l'un avant l'être, plus profondément que l'être, comme si l'être venait ensuite. Et Aristote, au contraire, dans une perspective d'expérience, met le multiple connu avant l'un. Mais l'être, dans ce qu'il est, autant que nous pouvons le connaître, analogiquement, a comme propriété l'un. Nous sommes en présence de ces deux grands philosophes. Et d'une certaine manière, après eux, on a fait des modulations différentes entre Platon et Aristote, mais ils sont toujours là. C'est très curieux. Alors nous sommes obligés de revenir à notre expérience pour essayer de voir nos expériences de l'un et du multiple. Ça, nous avons une expérience de l'un du multiple, constamment. L'expérience de nos journées. Faites l'inventaire de votre journée le soir. Hein. Vous avez fait quand même pas mal de choses. Très diverses. Et c'est toujours vous. Il y a une certaine unité. Vous n'allez pas dire « Ah, ce n'est qu'à partir de midi que j'étais éveillé. Avant, je dormais. Alors, j'étais un troupeau qu'on mène. » Plusieurs choses, on vous mène à la chapelle, très bien, troupeau, petite brebis par derrière, troupeau, on vous mène à la chapelle, parce que c'est bien de commencer par la prière, oui, c'est bien, c'est assez bien, puis après on vous mène au réfectoire, tiens, oui, parce que la prière ça creuse, et lorsque vous avez faim, alors on vous mène au réfectoire. C'est pas tout à fait la même chose. On a prié, réfectoire, deux choses tout à fait différentes. J'étais beaucoup plus éveillé au réfectoire que dans la prière. Je vois que, au fond, je devrais prendre ma tasse de café avant la prière. Je serais beaucoup plus éveillé. C'est la tentation chez certains qui prennent leur tasse de café avant. Pas ici, mais... de passer à la cuisine, prendre sa tasse de café, ça ira beaucoup mieux, l'horizon sera lumineuse. Et puis après, on a arrangé à peu près les choses, on a mis de l'ordre, des choses diverses, tant de petites choses, des relations avec mes frères, des relations avec mes supérieurs, pour organiser la journée. Après, un cours. Encore autre chose. Alors, suis-je éveillé comme pour l'oraison ? Suis-je éveillé comme pour le petit déjeuner ? C'est entre les deux. Le coup, il y a des fois où je suis très bien, je suis très présent, j'ai des idées multiples qui viennent, et puis quelquefois, ça m'endort. Je continue l'oraison du matin dans une sainte dormition. Je dors. Et tout ça, mais c'est très varié, la manière. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que toutes ces opérations multiples et diverses, c'est vous. Et vous ne doutez pas, mais vous pouvez vous poser. Le soir, j'étais le plus conscient pour quelle de ces opérations ? Laquelle de ces opérations j'étais vraiment conscient que c'était moi, avec mon caractère, avec mon intelligence, avec ma volonté. J'étais beaucoup plus présent. Le petit déjeuner commun, oui. Je ne pensais pas à grand-chose. Il fallait le prendre pour être plus éveillé. Mais... Tandis que, au cours, ça m'éveille. Ça me réveille. Je suis obligé de penser. Puis j'essaie de penser. Mais il y a souvent des distractions qui viennent. Des imaginations. Alors je reviens, je fais attention. Je vois qu'en prenant des notes, je suis plus présent que sans prendre de notes. Si je prends des notes, c'est pour mieux écouter. Je ne prends pas des notes pour moins bien écouter, non. C'est pour écouter avec plus d'attention. Et je vois que dans des opérations multiples, je suis plus ou moins présent. J'ai conscience d'une certaine unité à travers cette très grande diversité. Ça, je peux comprendre ça. Mais je comprends ça, c'est très subjectif. Hein. c'est très subjectif, c'est moi, ma personne, qui m'éveille dans cette diversité. C'est ma personne qui de fait a maintenu une unité à travers cette diversité. Alors, qu'est-ce qui est premier ? Où suis-je plus moi-même ? Dans cette diversité ou dans cet effort d'unité ? J'arrive à comprendre que par la finalité, tiens, j'arrive davantage à unifier ma vie. Je mets une intention plus forte grâce à ma finalité. Je fais tout cela pour répondre à la volonté de mon Dieu. Le philosophe peut dire ça. Il y a des philosophes qui ont eu un sens très très fort, Plotin. C'est bien dommage qu'on ne peut pas voir Plotin ensemble. Plotin, c'est quelque chose de très beau. Il faut avoir lu du Plotin. Ça se lit facilement, c'est spirituel, c'est beau. Lisez dans Plotin l'unité. Plotin est un néoplatonicien, donc il a très fort le sens de l'unité. Tous les philosophes un peu néoplatoniciens ont le sens de l'unité. Les aristotéliciens, il y en a tellement peu qu'on ne sait pas très bien. Ils voient peut-être beaucoup plus la diversité. Ils sont plus intensifs à une diversité très grande. Prendre mon petit déjeuner, ce n'est pas prier. Prier, ce n'est pas penser. Penser, ce n'est pas jouer. Et ce n'est pas prendre mon petit déjeuner. Je m'aperçois qu'en effet, ce problème de l'unité de ma vie et de la diversité de mes opérations est tout le temps présent. Et j'arrive à voir qu'au fond, unifier ma vie, ça se fait par la finalité. C'est curieux. C'est-à-dire, là où je suis plus présent, quand je suis fatigué, très fatigué, je suis distrait. Et la distraction supprime l'unité. Je peux raisonner comme ça et voir que tout ça, j'en ai l'expérience. J'ai donc l'expérience de l'unité et de la diversité. Et comme j'ai l'expérience des deux, c'est pas commode de voir l'ordre qui existe entre les deux, entre la diversité et l'unité. Je sens très bien que dans ma vie, si je suis plus profondément finalisé, une unité se fait. Si au contraire, je suis très fatigué et que je n'ai pas une finalité très nette, un amour suffisamment fort pour tout unifier, je me laisse un peu guider par la diversité. Tous les jours, c'est vrai, il y a des exercices très différents du corps et de l'âme, de la pensée et de l'amour. Et dans mon travail, il y a une très grande diversité. Je peux travailler des mains, travailler le bois, charpentier. Je peux travailler de la tête, penser, essayer d'organiser. Je perds dans la diversité. Je vois donc qu'il est nécessaire pour moi de quitter cet aspect subjectif dans lequel je suis quand j'ai conscience de mes diverses activités et de l'unité qui se fait progressivement dans ma vie. Ça, c'est subjectif. C'est très intéressant. Je vois que dans ma vie, il faut que je tende à unifier ma vie par une finalité qui vient de plus en plus profonde. Et si je suis chrétien, cette finalité s'impose encore beaucoup plus à moi. Ma raison humaine, mon intelligence humaine, mon amour de la vérité donne un certain sens d'unité à ma vie, mais une unité très fragile. Alors que la foi permet une unité beaucoup plus forte, parce qu'il y a une référence directe à la volonté du Père. Il y a une possibilité pour moi de me référer à cette volonté du Père. Point de vue philosophique, point de vue humain, c'est pas commode de voir cette volonté du Père. D'arriver à discerner la volonté du Père sur moi, je sais que Dieu voit tout et règle tout paternellement, mais il me laisse à moi-même le soin d'organiser ma vie. Et je suis là dans la difficulté d'organiser toute la richesse de ma vie et ne pas perdre son unité. Je crois qu'il est important pour nous de voir que ce problème de l'un et du multiple se repose au point de vue surnaturel et qu'il se pose d'une façon très différente. Parce qu'au point de vue surnaturel, j'ai possibilité de m'accrocher à une cause exemplaire. Imiter Jésus, imiter Marie, c'est un facteur très profond pour unifier ma vie. Philosophiquement, je n'ai pas de modèle. Socrate, c'est très bien, mais c'est très vieux. C'est tellement différent, la vie de Socrate et la mienne. La vie des sages, très différent. Je n'ai pas la causalité exemplaire dans ma vie. Au point de vue philosophique, je n'ai pas cette causalité exemplaire. Et cette causalité exemplaire me servait beaucoup pour unifier ma vie. Ça m'était une causalité qui mesurait mes activités et qui les unifiait donc, grâce à cette causalité exemplaire. L'imitation de la vie du Christ est un grand facteur d'unité dans ma vie. Au point de vue philosophique, je ne peux pas imiter Aristote, je ne peux pas imiter Platon. Ils sont trop personnels. Oui, ils sont trop personnels. Ce n'est pas un défaut d'être trop personnel, mais pour moi, c'est un défaut. C'est un défaut, parce que imiter Platon, impossible. Platon avait des qualités, avait un milieu de vie que je n'ai pas. Imiter Aristote non plus. Je ne peux imiter personne au point de vue philosophique. Et donc je suis perdu. Et c'est là la grosse difficulté. Parce que la causalité exemplaire, c'est pour ma vie chrétienne. C'est pas pour ma vie humaine. Je suis donc livré à ma propre réflexion. Alors qu'au point de vue chrétien, j'ai compris qu'il fallait imiter Jésus. Et ça me donne un soutien énorme. Il fallait imiter Marie. Ça me donne un soutien énorme. Aristote reconnaît que dans toute éducation, la causalité exemplaire joue un rôle très important. Pouvoir imiter quelqu'un et le suivre. Au point de vue philosophique, je n'ai plus ces références. Elles sont multiples. Imiter les grands hommes, imiter les philosophes, imiter les saints, c'est multiple. Au point de vue chrétien, j'ai la possibilité de unifier la causalité exemplaire. Le Christ, Marie, c'est énorme. Je dois donc essayer humblement de mieux connaître l'unité et la multiplicité pour pouvoir saisir comment l'unité est relatif à l'être et non pas l'être relatif à l'un. Car je vois que c'est ça le gros problème. C'est que chez Platon, l'un est relatif, l'être est relatif à l'un. C'est l'un qui commande tout. Chez Aristote, c'est l'inverse. Alors, je peux avoir une sympathie plus grande pour Platon, une sympathie plus grande pour Aristote, mais je ne peux pas vivre au niveau sympathique. Je cherche la vérité. Et j'aime Platon, j'aime Aristote, mais je cherche la vérité. Lequel a raison ? Si je suis habitué à Aristote, je serai incliné à dire Aristote a raison. Si je suis habitué à Platon, je dirais Platon a raison. Vous voyez, pour le problème de l'un et du multiple, je vois que ces deux grands philosophes ont des positions inverses. C'est très étonnant. Et la manière dont Platon, philosophe, et les néo-platoniciens, c'est dans la diversité. La manière dont Aristote découvre l'un comme propriété de l'être, donc comme quelque chose qui s'appuie sur l'être, Oui, mes lettres, j'en ai qu'une connaissance analogique. Donc, une connaissance où la diversité est première. Dans la connaissance analogique, les modalités vers lesquelles je saisis l'être, c'est très divers. Depuis le caillou, depuis la montagne, l'animal, l'intelligence, l'être. La diversité apparaît, au fond, comme très très importante. Autrement, si je mets l'un avant, est-ce que je ne tomberai pas dans l'univocité terrible du genre, de la différence spécifique, quelque chose de très solide. Dans mon expérience, dans mes expériences, j'ai l'expérience d'abord éthique. Peut-être que l'expérience artistique est antérieure, ça se peut. Pour Aristote, l'expérience artistique est première. L'expérience éthique vient ensuite. Alors prenons l'expérience artistique. Dans l'expérience artistique, je suis très frappé de voir que la diversité est première. D'abord, parce que je vois le développement artistique se faire de façon très différente. Le poète, le peintre, le musicien, je prends cela, le théâtre, c'est très divers. Et on peut très bien avoir une propension au point de vue du goût pour la peinture, ou la musique, ou l'architecture. On doit maintenir cette diversité. Et si j'ai un sens plus aigu vers la peinture, cela ne m'empêche pas d'essayer d'entrer dans l'art musical. Comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier. Et je m'aperçois à ce moment-là qu'au fond, ma connaissance première est diverse. Autre chose, le toucher. Autre chose, la vision. Autre chose, l'entendement. Et une diversité fondamentale et première. Cette diversité, elle m'est donnée. Je suis obligé de la reconnaître. Ma nature implique la diversité. Ma nature implique ma diversité. Si je suis intelligent, je comprends que je peux très bien me perfectionner dans des sens très divers. L'art pictural éveille en moi le sens de la lumière. Et le sens de la lumière se traduit à travers des rythmes très différents de couleurs, des oppositions. Et la couleur est vie mise en pleine lumière par la lumière qui elle-même est diverse. Je peux parler de la lumière, mais je m'aperçois que la lumière est très différente selon les régions, selon les pays. Et dans le même pays, la lumière d'hiver et la lumière d'été, la lumière de printemps, c'est divers. Je vois cette diversité, elle est palpable. Je ne peux pas la nier. Je suis un homme qui est fait pour cette diversité. Je ne peux pas demander à la musique, à l'art musical, de me donner les mêmes sensations, la même joie que lorsque je suis saisi par le point de vue pictural. Autre chose. Je suis plus ou moins sensible à l'un, plus ou moins attiré vers l'un ou vers l'autre. Je peux essayer de m'éduquer successivement dans le point de vue pictural, dans le point de vue musical, dans le point de vue poétique. Et je vois que ça s'éduque. Ça s'éveille. Et certaines personnes autour de moi sont insensibles à la poésie, très sensibles à l'art pictural, très sensibles à la sculpture, très sensibles à l'architecture. C'est très étonnant de voir cela. Je suis premièrement dans la diversité. Et cette diversité, elle est mise en pleine lumière par l'art. En dehors de l'art, c'est très vrai, je peux très bien voir la diversité entre le toucher et la vision. Mais je ne fais pas grande attention à ça. Tandis que dès que je suis au point de vue artistique, je vois très bien que l'art se nourrit différemment du toucher, la sculpture, que de la lumière. L'art se nourrit différemment de la vision et de l'audition. C'est très curieux, ça. L'imagination vient aider d'une façon diverse, mais mon contact direct, immédiat avec la réalité. Je peux très bien, imaginativement, développer énormément mon toucher. Je peux développer imaginativement ma vision, mon audition. Il y a une possibilité d'un développement imaginatif, et non seulement imaginatif, mais aussi intellectuel. Ah, c'est curieux. Les fantasmes imaginatifs sont différents du tactile, de la vision, de l'audition. Mon imagination se développe différemment selon les différents sens, et l'intelligence se sert de cette imagination différente. Il y a des gens qui ont une imagination d'une fertilité extraordinaire et ils offrent ça à leur intelligence et l'intelligence se nourrit de cette imagination et elle construit des mondes différents poétiquement. Elle construit d'une façon visuelle des châteaux, des églises, des sculptures différentes, des monuments différents. C'est très extraordinaire de voir ça. Et de voir ça chez des artistes différents. Il faut être très attentif à ça. Et c'est très intéressant de cultiver ces relations avec des artistes de qualité tout à fait différente. Parce que ce sont eux qui m'apprennent à comprendre cette diversité des sensations. Si je ne fréquente pas ces artistes, au fond, la diversité de mes sens se ramènera à quelque chose de très simple. Tous les jours, je dois faire ce petit voyage d'aller du réfectoire à la chapelle, de la chapelle à la salle d'études. Tout ça est banalisé. Et au fond, c'est banalisé en vue de l'utilité. J'ai vu qu'il y avait un chemin plus rapide. Si je passais par le rez-de-chaussée, que si je passais par le premier étage, je banalise et je regarde là, au point de vue de ma cogitative, ce qui est le plus utile, ce qui est le plus rapide. Ceci, c'est le petit voyage que je fais tous les jours. Si je dois le faire en auto, c'est plus vaste et j'ai découvert un itinéraire beaucoup plus parfait, beaucoup plus simple. Et puis j'ai l'itinéraire offert à tout le monde qui est l'autoroute. Est-ce que je gagne plus de temps en prenant l'autoroute où je peux aller plus vite ou est-ce que je gagne plus de temps à prendre des petits sentiers, je vais moins vite? Mais c'est plus court. Toute ma vie est prise comme ça, quelquefois, mais je banalise très fort. Je regarde ce qui est le plus utile. Et à ce moment-là, le point de vue qualitatif disparaît. Il y a des gens qui font tous les jours le même trajet et qui n'ont rien vu. Il y a des personnes qui font ce trajet pour la première fois et qui voient des tas de choses que celui qui le fait tous les jours ne voit pas. C'est très étonnant, ça. Mais c'est la sensibilité. Quand je fais le même trajet à toute vitesse pour mon travail, je suis pris par la rapidité. Je regarde. Combien de temps ça dure? C'est la seule occupation. Quand je peux le faire avec un peu plus de détente, je regarde, je vois. Ce sont des distractions. Par rapport à l'utilité, ce sont des distractions. Et quelqu'un qui est uniquement dans l'utilité, dire celui-là, mais il faut aucune attention à ce qu'il fait. Parce qu'il fait attention à ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, ça l'intéresse. Ou ce qu'il rencontre. En faisant ce trajet, je rencontre tous les jours la même personne. Elle m'intrigue. Qu'est-ce qu'elle est ? Et je vais essayer de voir si je peux la connaître. Ces possibilités. Oui, au fond, avoir conscience dans notre vie, on voit très bien que les éléments sensibles ou se développent ou se banalisent par le point de vue utilitaire, par le point de vue de la rapidité. Et ça, c'est très sensible pour les gens qui doivent prendre le train tous les matins, tous les gens qui doivent prendre l'auto tous les matins. Il y a une espèce de ramener tout à l'utilité. Si vous ramenez tout à l'utilité, vous ne voyez plus rien, vous ne sentez plus rien. Tout devient banal. Et le monde tend à cet point de vue utilitaire et le développement des sens, de la diversité, tend à disparaître. Il y a un phénomène là d'éducation de notre vie. On sent très bien qu'il y a deux développements. Un développement utilitaire. Le monde est de plus en plus pris par l'utilitaire. Gagner de l'argent. Aller le plus vite possible. Parce que c'est ce qu'on doit faire. Et puis, au-delà de l'utilitaire, le souci de développer sa sensibilité, son expérience. Donc, au point de vue artistique, c'est très net. Il faut du temps pour faire un artiste. Il faut avoir la possibilité de s'arrêter, de prendre le temps d'analyser ce qu'on ressent et ne pas être pris trop par l'utilitaire. On n'a plus le temps d'analyser. Il faut à tout prix faire ça. Je crois que nous découvrons par là celui qui s'intéresse à la diversité des qualités. À la diversité de notre expérience humaine. Il y a une très grande diversité dans notre expérience humaine. Et cette très grande diversité dans notre expérience humaine nous fait que notre imagination se développe dans un sens ou dans un autre. Et donc, il y a une diversité d'imagination qui dépend de celle des sens. Il y a une diversité du développement intellectuel en raison même de la diversité de l'imagination et des sens. Je m'aperçois donc que l'être humain se diversifie énormément par les diverses sensations. Donc, là, il y a un primat de la diversité, ce qui est très important de regarder que le développement humain se fait en premier lieu dans cette diversité. Et à travers cette diversité, il y a une unité qui se développe. La nature humaine est diverse. La personne humaine s'unifie dans cette diversité. C'est très étonnant de voir justement là encore le point de vue de la nature, l'objectivité de la nature et le développement de la personne. Le développement de la personne implique un besoin d'unité qui se fait. Et cette unité qui se fait, elle se fera par la finalité. Prenez tout simplement l'exemple de celui qui choisit pour sa vie d'être un musicien. Ou d'être quelqu'un qui se donne au Christ. Alors ça, évidemment, ça fait appel au point de vue surnaturel, mais qui se donne à la recherche de la vérité. Vous avez là deux types très différents de personnes humaines. Ils se développent à partir de la diversité. On a plus ou moins conscience. À partir de cette diversité, il y a une base commune de l'humanité. Cette base commune de l'humanité, elle est plus ou moins développée. Cela, ça fait partie de la culture. C'est la culture qui implique ce développement dans cette diversité. Et on a choisi pour une orientation. Je crois que c'est très important de comprendre que la diversité est fondamentale. Celui qui nie trop vite cette diversité, ça sera peut-être un petit chef-d'œuvre dans un sens, mais il n'y aura pas un développement humain parfait. Ça deviendra un spécialiste. On peut se spécialiser du côté visuel, du côté auditif, du côté touché, mais le développement divers est toujours capital au point de départ. Parce qu'au point de départ, il y a cette diversité. Et si on se spécialise trop vite, on sera peut-être un petit génie, mais au point de vue humain, il y aura quelque chose qui n'existera pas, qui ne sera pas développé. On sera un petit monstre, dépassant tout le monde dans un domaine particulier. Mais on aura abandonné la diversité fondamentale. Le cas extrême, on peut arriver à élever des oies pour faire du foie d'oie. Alors, vous les éduquez dans un sens très particulier. Et on arrive à faire ça même pour les hommes. Pas tout à fait, mais à peu près. On fait des choses analogues. Vous avez perdu la diversité du point de départ. C'est pas pour rien que l'homme, au point de départ, a 5 sens. Et que ces expériences sont à partir justement de cette diversité. Alors, c'est très bien la spécialité à l'intérieur de la diversité. Mais on ne devra jamais abandonner la diversité. Je crois que ceci, c'est très visible dans l'éducation artistique. Pour chacun d'entre nous, nous avons pour chacun d'entre nous une sensibilité plus marquée par la lumière, la vue, par l'ouïe, par le toucher. L'affectivité se développe énormément par le toucher, moins par l'aspect visuel, plus par l'aspect auditif. Alors c'est très important de voir cette diversité qui fait que de fait, diversité et unité, c'est constant. L'unité se nourrit à partir de la diversité. Et si je suis pour l'unité trop vite, je tomberai dans la spécialisation et il y aura quelque chose au point de vue humain qui sera perdu. Donc, philosophiquement, la diversité est au point de départ et elle est capitale. Et l'école unique que le gouvernement désire avoir risque toujours de diminuer la personne humaine et de faire des petits monstres. Ce n'est pas pour rien que naturellement, je dis bien naturellement, nous avons les cinq sens. Et personnellement, nous choisissons une orientation. Alors, on retrouve là le problème de l'unité et de la diversité. Mais nous voyons que la diversité est première, c'est la nature. La personne, elle naît à partir de la nature. Alors, il y a un problème d'unité et de diversité. J'en ai l'expérience au point de vue de l'art. Elle est très forte, là. Je peux passer au point de vue moral. J'ai la même diversité au point de vue moral, mais tout autre. J'ai la diversification à travers mes activités bonnes. Et j'ai une unité à partir de l'amitié. L'amitié me fait comprendre une unité au-delà de la diversité. Et me fait comprendre que cette unité touche à la question de la fin, la finalité. La diversité, c'est l'expérience. Et la diversité va maintenir en moi la diversité des vertus. Les vertus sont diverses. Il n'y a pas qu'une seule vertu, tandis que l'amitié est une. Alors là, je vois au point de vue éthique un problème extrêmement intéressant. L'éducation implique une diversité, et cette diversité est pour l'unité. Il n'y a pas de finalité dans la diversité. Tandis que dans la finalité, il y a l'unité. Et je peux comparer, et je dois même comparer, toujours ce point de vue artistique, l'art me donne un sens de la diversité. Le point de vue éthique me donne beaucoup plus un sens de l'unité.